Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Ici Jean Percy et je suis vraiment très content de vous retrouver. Vous l'avez sûrement constaté, cela fait 2 mois que vous avez beaucoup de rediffusions de mes anciennes émissions. Alors rien de grave, ne vous en faites pas. Cela était dû à un voyage que j'ai entrepris en Angleterre depuis le mois de janvier. Je suis allé découvrir les chœurs de la Grande-Bretagne, notamment les grands chœurs de Londres, Westminster Abbey, Westminster Cathedral, St. Paul's Cathedral, et également les grands chœurs de Oxford et de Cambridge. J'ai beaucoup profité de ce temps-là pour découvrir un nouveau répertoire et une façon de faire. Vous savez que j'apprécie particulièrement la façon de chanter de nos amis britanniques et j'espère vous en faire découvrir quelques facettes au gré des ondes. Voilà, donc maintenant vous allez me retrouver, comme d'habitude, chaque semaine, et c'est un plaisir de vous retrouver pour de vrai, si j'ose dire. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec cette période tout à fait particulière, vous l'aurez noté, du carême, qui est une période liturgique totalement, tout à fait singulière, qui est marquée par le dépouillement, l'intériorité et une certaine forme de retenue esthétique. Vous savez que c'est bien entendu la réponse musicale aux 40 jours passés dans le désert du Christ qui va être tenté. Alors traditionnellement, dans la liturgie catholique, l'orgue se tait ou alors il se fait discret. Dans la présentation générale du missel romain, il est demandé que l'orgue ne joue pas seul, en tout cas pendant la liturgie. Les ornements disparaissent et la musique elle-même se concentre sur l'essentiel, le texte, la prière et l'expression nue de la foi. Mais attention, parce que ce dépouillement n'est pas une absence, il est au contraire le terreau de certaines des plus belles pages du répertoire, et vous allez vite vous en rendre compte aujourd'hui. C'est une musique qui regarde vers l'intérieur, qui interroge, qui implore et qui médite. Alors, aujourd'hui, je vous propose un parcours en 3 étapes, à travers 3 compositeurs et 3 esthétiques. Alors même si les 2 premiers se ressemblent un petit peu, vous allez voir, c'est très différent dans le style de la musique, mais évidemment, on ne peut pas aborder le répertoire du carême sans parler de cela. Alors, le premier que nous allons observer, c'est la ferveur contenue chez William Byrd, ensuite la mystique suspendue chez Gregorio Allegri, et enfin, l'intensité moderne et bouleversée de Francis Poulenc. 3 œuvres pour traverser en musique le mystère du carême. Alors nous allons commencer avec William Byrd, une figure majeure de la Renaissance anglaise, née en 1540 et mort en 1623. Byrd, c'est un compositeur que j'affectionne particulièrement, vous allez entendre, il est extrêmement attachant dans sa musique, mais également dans son histoire. C'est un cas fascinant car totalement à part dans la musique. Il a été en effet compositeur officiel de la cour d'Angleterre, et la cour, à l'époque, sous Élisabeth Ier, était protestante. Pour autant, Byrd, lui, est resté toute sa vie un catholique fervent, et cette fidélité n'allait pas sans danger. C'était une époque où la pratique du catholicisme pouvait être sanctionnée, et Byrd compose et publie des messes destinées à des célébrations clandestines dans des maisons privées, loin des regards. On est donc très loin des grandes messes fastueuses de l'époque qui se faisaient dans les grandes cathédrales anglaises. Sa messe à 4 voix, dont est extrait l'Agnus Dei que nous allons entendre, appartient à ce genre de corpus. Ce n'est pas donc une musique de cathédrale, c'est une musique vraiment de résistance. Elle est presque intime, destinée à de petits effectifs. Une messe à 4 voix, c'est en effet relativement sobre, mais elle est d'une grande intensité spirituelle. Elle est tout à fait remarquable. Alors musicalement, vous allez l'entendre, Byrd s'inscrit dans la grande tradition polyphonique de la Renaissance. On est tout à fait dans ce qui se fait dans l'école romaine, vous pouvez entendre ça chez Palestrina ou chez d'autres, Victoria par exemple. Donc l'écriture est imitative, contrapuntique parfois, chaque voix entre à son tour, mais toujours avec une clarté remarquable du texte. Alors dans cet Agnus Dei, la supplication « Miserere nobis » puis « Dona nobis pacem » est portée, vous allez l'entendre, par une tension croissante. Et ce qui frappe dans ce morceau, c'est la retenue. Il n'y a pas d'effet spectaculaire, mais il y a une vraie densité expressive construite sur les dissonances qui sont soigneusement préparées avec le talent de ce compositeur. Vous allez entendre des suspensions, des frottements harmoniques. Et la paix demandée n'est finalement pas donnée immédiatement. Elle se cherche, elle se mérite presque. Et on peut voir dans cette musique un parallèle avec la situation de Bird lui-même, c'est pour ça que je vous en parlais, une foi qui est vécue dans la discrétion, mais parfois aussi dans la crainte, mais elle est profondément ancrée. Une musique de carême au sens le plus intime, celle d'une conscience qui se tourne vers Dieu dans un monde hostile. Alors sans plus attendre, je vous propose d'écouter cette Agnus Dei de la messe à quatre voix de William Bird, c'est ici chanté par le chœur de Christ Church à Oxford. Et c'est ainsi que se termine cette magnifique messe à quatre voix de William Bird, puisque l'Agnus Dei est le dernier morceau de la messe. Naturellement, si cet extrait vous a plu, je vous invite à découvrir les autres morceaux de cette messe et plus largement le répertoire incroyable de ce grand compositeur qui a composé de très belles choses pour la liturgie catholique. Alors maintenant, nous allons rester dans une atmosphère de pénitence avec une œuvre devenue le mythe absolu des chœurs, notamment dans la période de carême, j'ai nommé le Miserere de Gregorio Allegri. Alors je vous préviens tout de suite, nous n'allons pas l'entendre en entier, puisque c'est une œuvre qui est assez longue, elle dure presque un quart d'heure, à elle seule, elle aurait fait la moitié de l'émission. Donc seulement quelques extraits que je vous ai assemblés, mais qui donnent tout de même une très belle atmosphère à cette pièce absolument mythique. Alors Allegri, c'est un compositeur italien du XVIIe siècle. Il est né en 1582, donc à la fin du XVIe siècle. Il est chanteur et membre du chœur de la chapelle pontificale à Rome, rien que ça. Et il compose ce Miserere mei Deus, qui est en fait la traduction du psaume 50, pour les offices des ténèbres de la Semaine Sainte célébrés dans la chapelle Sixtine. Il faut savoir que depuis bien longtemps et dans l'histoire du Moyen Âge, c'est l'épicentre de la musique papale et donc chrétienne. Cette chapelle Sixtine, c'est l'endroit où on chante. Et d'ailleurs, c'est, on pense là, de là que provient l'expression chanter a cappella, c'est-à-dire chanter dans la chapelle sans instrumentation. Donc, c'est dire le poids qu'a cette vénérable institution au sein de l'Europe musicale. Alors pendant longtemps, cette œuvre a été entourée d'une véritable aura de mystère. Alors qu'est-ce qui relève de la vérité, qu'est-ce qui relève du culte? On ne le sait pas, mais il est vrai qu'il y a de nombreuses anecdotes qui existent, notamment le fait qu'elle n'était exécutée qu'au Vatican, sa diffusion était strictement contrôlée, sous peine d'excommunication. Et la légende raconte que le jeune Mozart, après une seule audition, l'aurait retranscrite de mémoire, contribuant ainsi à sa diffusion en Europe. Alors aujourd'hui, on s'accorde plutôt à dire qu'il y aurait eu deux auditions, la deuxième aurait été pour vérifier la première, mais on sait également que la vie du jeune Mozart a été largement romancée par son père, notamment qui voulait lancer la carrière de son fils et qui a réussi avec grand succès. Là aussi, qu'est-ce qui dépend du mythe, qu'est-ce qui dépend de la réalité, on ne sait pas, mais en tout cas, tout cela contribue au véritable mystère qui entoure ce Miserere. Alors au-delà de l'anecdote, le Miserere fascine par son dispositif musical. Il repose en effet sur une alternance entre deux chœurs. Un chœur principal qui chante une psalmodie qui est, elle, relativement simple, à cinq voix, et un second chœur plus orné qui vient comme suspendre le temps, lui qui se fait à quatre voix. Il y a également des petites réponses qui se font avec un faux bourdon grégorien. L'écriture, justement, s'inscrit dans le style du faux bourdon qui est hérité de la Renaissance, mais est ici enrichie d'ornements, notamment dans les voix supérieures. Il y a bien entendu ce fameux aigu du soprano, hein, le do aigu, le contrut qui est devenu emblématique et qui semble ouvrir comme une brèche vers le ciel. Il faut également savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend ou qu'on découvre le Miserere d'Allegri sur les enregistrements, il est fait de façon assez sage. Il faut savoir que à l'époque, à la chapelle Sixtine, il était chanté de façon ornée sur toutes les voix et en fait, c'était une véritable improvisation, ce qui fait que d'une année sur l'autre, on n'entendait jamais deux fois la même chose. Bien entendu, ces ornements improvisés n'étaient jamais écrits, ce qui donne qu'aujourd'hui encore, certains chœurs cessaient à faire certaines ornementations, ce qui donne parfois lieu à des choses totalement spectaculaires. Ce qui fait la force de cette musique, c'est son rapport au silence et à l'espace. Donc, déjà, quand on a deux chœurs, il y a une dimension d'espace qui est intégrée. Et dans la liturgie des ténèbres, les cierges sont progressivement éteints, l'obscurité s'installe et la musique accompagne ce retrait du monde sensible. Et le Miserere devient alors une expérience qui est presque sensorielle. Vous avez une prière collective, lente, répétitive, où chaque verset approfondit la supplication et le temps semble suspendu, comme si la musique elle-même rentrait dans une forme de méditation. C'est une œuvre donc qui incarne parfaitement l'esprit du carême, l'humilité, l'intériorité et une quête de miséricorde. Nous allons donc maintenant entendre cet extrait du Miserere d'Allegri, c'est le Chœur Ténébré, qui est conduit par Nigel Short.
Thank you.
Et après avoir entendu cette merveille, nous faisons maintenant un saut dans le XXe siècle avec Francis Poulenc, né en 1899 et mort en 1963. C'est un compositeur aux multiples visages, à la fois léger, mondain et profondément spirituel. Poulenc connaît un tournant décisif en 1936 après la mort accidentelle d'un ami proche. Cet événement provoque chez lui une véritable conversion intérieure qui marque profondément son œuvre. Et à partir de ce moment, il compose plusieurs pages sacrées majeures, dont les Répons des Ténèbres écrits à la fin de sa vie. Ces réponses s'inscrivent dans la tradition liturgique des offices de la Semaine Sainte, exactement comme ce qu'on vient d'entendre avec Gregorio Allegri, mais c'est dans un langage résolument moderne. Poulenc, que vous allez entendre, ne cherche pas à imiter les anciens, il réinvente cette tradition avec ses propres moyens, et vous allez entendre, les moyens sont grands. Son écriture harmonique est caractéristique, des accords parfois très simples, presque diatoniques, mais soudain traversés de dissonances inattendues, de modulations abruptes, il y a chez lui une forme de tension permanente entre douceur et angoisse. Dans les deux premières réponses, cette tension est particulièrement palpable. Le texte, souvent dramatique, est mis en valeur par une prosodie très soignée. Chaque mot compte, chaque accent est pesé. L'orchestre dans cette œuvre joue un rôle essentiel, il ne se contente pas d'accompagner, il amplifie le climat émotionnel, il crée des nappes sonores, des couleurs et parfois sombres, parfois lumineuses, qui soutiennent la voix sans jamais l'écraser. Et c'est particulièrement vrai dans les deux premiers réponses que nous allons entendre. Le premier, c'est celui effectivement du Christ qui s'adresse aux disciples qui se sont endormis et qui leur dit « Vous n'êtes pas capable de veiller avec moi une heure » et vous allez entendre beaucoup de mélancolie. Et le deuxième, c'est la trahison de Judas, vous allez entendre l'orchestre presque schizophrénique qui montre ce combat interne. On peut parler d'une spiritualité qui est incarnée, une foi qui passe par les émotions, les contradictions, les fragilités humaines. Bref, une musique profondément du XXe siècle, mais qui rejoint à sa manière l'esprit du carême, celui d'un cheminement intérieur, parfois mouvementé. C'est une magnifique œuvre. Ici, c'est l'orchestre de la BBC et les Sixtines qui chantent. Une œuvre incroyable. Voici donc les deux premiers des sept Répons des Ténèbres de Francis Poulenc. Voilà donc pour cette œuvre incroyable, les deux premiers répondent des sept de Francis Poulenc. Bien sûr, je vous invite à découvrir l'entièreté de cette œuvre. Et c'est avec ces notes que s'achève ce parcours musical au cœur du carême. Trois compositeurs, trois langages différents, mais une même quête, celle d'une parole intérieure, d'une musique qui ne cherche pas ici à séduire, mais à toucher, à interroger, à accompagner, de la foi discrète de Bird à la mystique suspendue d'Allegri jusqu'à l'intensité moderne de Poulenc, c'est toute une histoire de la spiritualité musicale qui s'est ici dessinée et que vous avez pu entendre. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro de Point d'Orgue. À très bientôt.